Le souhait de nous retrouver en présentiel, surtout en cette période, c'est par rapport à la réalité interactive qui est différente du physique que de tout autre support. Ainsi que les ministères qui se trouvent, surtout les ministères, être un grand besoin au moment où nous arrivons avec les enseignements et les prédications actuelles. Notre série Transformation en profondeur, commencée depuis quelques temps, se trouve maintenant sur la dimension réflexive. La dimension réflexive de la transformation en profondeur. Dire la dimension réflexive de la transformation en profondeur équivaut à dire Dieu et moi. Donc nous parlons de ce travail, de l'impact du salut reçu en Jésus-Christ par rapport à moi. Nous avons déjà parlé par rapport au monde, le cosmos, le monde non humain, habité, toutes les créatures. Nous avons déjà parlé de l'impact du salut en Jésus-Christ par rapport aux relations interpersonnelles, en particulier entre enfants de Dieu. Et maintenant, nous parlons de cela par rapport à moi. Et par rapport à moi, lorsque nous parlons de moi, de Dieu et moi, ou bien, comme je l'ai dit, la dimension réflexive de la transformation en profondeur, à ce niveau-là, nous sommes en train d'exploiter depuis la fois dernière le titre « Homme, femme, quel est mon besoin ? Quel est mon vrai et réel besoin ? Homme, femme, quel est mon vrai et réel besoin ? En tant qu'un homme, parce que je suis soit un homme, soit une femme, lorsque nous disons Dieu et moi, Dieu est Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, moi c'est le monsieur ou madame, le jeune homme ou la jeune fille, homme ou femme. Quel est mon vrai besoin? Quel est mon réel besoin pour lequel, si vous voulez, besoin, j'ai besoin de transformation en profondeur de la part de Dieu. C'est ça que ce titre veut dire. Quel est mon vrai besoin? Et nous avons des messages qui nous permettent de connaître, d'identifier chacun, de connaître, d'identifier chacune son vrai et réel besoin, tant que possible, sans confusion. Nous avons parlé de cela le dimanche dernier et nous continuons aujourd'hui et nous allons vous accompagner. Et en parlant, nous avons déjà vu que le péché a entamé, a détruit, a détérioré l'être vivant, l'être humain, l'homme, la femme, depuis la chute en Adam et Ève, jusqu'au niveau individuel, en passant par le niveau communautaire, jusque cosmopolite et toute l'humanité, toutes les générations, nous nous trouvons affectés, abîmés, atteints, détériorés, dégradés, déchus, grâce et à cause du péché. Et cela se passe au niveau de... Ah, je suis en train d'utiliser l'appareil de Bérit. Alors, cela se passe, disais-je, au niveau de l'ensemble, le cosmos, mais aussi au niveau personnel. Et ça, c'est ce que nous avons déjà abordé. Nous pouvons, alors que nous continuons de réfléchir sur cette réalité, comprendre que la dégradation ou l'atteinte par le péché de tout le cosmos, de toute l'humanité, dans l'espace et dans le temps, jusqu'à nous-mêmes, part d'Adam, atteint tous, et puis m'atteint individuellement. Comment cela se passe? Nous avons quelques passages d'abord qui nous font un miroitement biblique de cette réalité spirituelle. Nous pouvons lire Job chapitre 15, versets 14 à 16. Je crois que la technique va nous aider. Job chapitre 15, versets 14 et 16, et puis le psaume 51, verset 7, pour ceux qui notent. Donc nous parlons ici de ce bilan de l'état de dégradation de toute l'humanité jusqu'à mon état de dégradation personnelle à cause du péché d'Adam et Ève. Job 15, versets 14 à 16, puis psaume 51, verset 7. Ensemble, je crois que nous pouvons voir et lire. Allons-y ensemble. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'homme né de la femme pour qu'il soit juste? Dans notre texte, on dit juste. Ici, on dit pur. Qu'est-ce que l'homme? On évoque les saints, ça fait penser aux anges. Pour dire si les anges qui se tenaient à la cour de Dieu ont pu être déchus, à plus forte raison, l'homme né de la femme, la condition pécheresse ou la condition des péchés qui nous a atteints tous. C'est pourquoi nous pouvons aussi constater cela par la confession d'une personne. J'ai annoncé le psaume 51, verset 7. Ensemble, lisons. Est-ce qu'on peut voir le verset précédent? Parce qu'il y a... Ça doit être verset 6 ou verset 8. Soit le précédent, soit les suivants, selon les versions. Ça, c'est 8. Verset précédent, verset 6. Voilà. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le verset dit, je suis conçu. Depuis le sein de ma mère, je suis conçu dans l'iniquité. Depuis le sein de ma mère. Voilà, ça c'est 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Donc, tout être humain qui vient dans le monde vient avec la tare, la marque, la corruption qui s'appelle le péché. Je suis conçu dans le péché depuis le sein de ma mère. Et ça, c'est le fait d'hériter un peu la condition du péché à cause d'Adam et Ève. Mais est-ce que ça suffit pour que nous soyons dégradés, déchus, non seulement au niveau de l'héritage générationnel, biophysiologique, biologique, mais au niveau individuel? Comment est-ce que ça part de la chute d'Adam et Ève jusqu'à moi, jusqu'à nous, dans le temps et dans l'espace, de génération en génération, quelle que soit la couleur de la peau, la société? Comment est-ce que ça part comme cela? C'est parce que lorsque le psalmiste, en psaume 51, le verset que nous venons de lire, 5, dans les textes que moi j'ai, c'est 7, il dit, je suis conçu dès le sein de ma mère, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Donc quelqu'un se rend compte de cela. Et Job a fait la même déclaration initialement. Pourquoi cela se passe ainsi que de l'ensemble, nous soyons concernés au niveau individuel? Lisons 2 Rois, chapitre 14, verset 6, notez. 2 Rois, chapitre 14, verset 6, notez aussi Proverbe, chapitre 8, verset 36. 2 Rois, chapitre 14, verset 6, Proverbe 8, verset 36. Ouais, 2 Rois 14, 6, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos bouches et lire ensemble un peu plus fort, allons-y. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, ni les enfants pour les pères. Chacun mourra pour son péché. On dirait, chacun mourra pour son propre péché. Alors vous voyez maintenant, de la condition générale des pères, des parents qui touchent les enfants, Dieu maintenant établit une prescription. Parce qu'à cette tête, il y aura d'autres promesses qui vont faire que si les pères ont péché et que les enfants quittent le péché et choisissent Dieu, ils seront libérés de la loi de la malédiction due au péché à cause du péché de leurs parents. Donc ici nous voyons ce qu'on appelle de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle. C'est pourquoi nous ne devons pas nous cacher derrière Adam et Ève par des philosophies. Nous devons nous assumer individuellement en nous plaçant nous-mêmes si c'était moi à la place d'Adam et Ève. Mais la meilleure question c'est que maintenant c'est mon tour. Qu'est-ce que moi je fais? Nous ne sommes plus en face des pommes, comme on le dit, des fruits, de l'arbre, la pomme, comme on aime l'expliquer. Nous ne sommes plus en face de cette réalité. Nous sommes en face de plusieurs réalités. Qu'est-ce que je fais? Lisons. Donc, chacun mourra pour son péché. Tu es déchu, tu as des problèmes à cause, non pas des péchés des parents. Le texte ne dit pas que si les parents pêchent, tu es épargné. Mais ici, c'est la responsabilité personnelle. Donc, il y a déjà un principe qui existe. Des parents, ça atteint les enfants. Mais maintenant, Dieu dit, ok, ça ne sera pas seulement comme ça. L'enfant lui-même aussi est responsable de porter le poids de son péché. Comme pour dire, l'enfant peut se désolidariser de la loi qui le liait en malédiction et en colère de Dieu à cause des parents pour jouir de sa bénédiction à cause de son propre choix pour Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le deuxième texte, je pense avoir annoncé Proverbe chapitre 8 verset 36 qui dit « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » Cette partie-là seulement, vous voyez? Donc quand quelqu'un pêche, le tort qu'il cause, il le cause d'abord à qui? À lui-même. Tu pêches contre Dieu, mais la nuisance, la peine, celui qui emporte, ce n'est pas Dieu en réalité, c'est toi-même. Celui qui pêche, il cause du tort à sa propre âme. Donc, il y a déjà maintenant le niveau individuel qui nous engage. Alors, comment est-ce que nous voulons continuer partant de ce fait de partager la responsabilité, les conséquences du péché, du niveau général, collectif, communautaire, dû à Adam et Ève, au niveau personnel, individuel. Nous voulons, puisque notre but, c'est d'identifier tant que possible mon vrai et réel besoin. Pour que je me tienne devant Dieu et lui dise par exemple, comme l'a dit le psalmiste, moi je suis pécheur. J'ai besoin que tu me transformes. Je fais ceci ou cela. Aide-moi. Interviens. Agis dans ma vie. Comment identifier mon vrai et réel besoin de transformation? Parce que je veux vous dire que c'est l'ignorance de ces vérités qui font que même enfant de Dieu sincère, sérieux, converti, réellement sauvé et rempli du Saint-Esprit, l'on puisse être victime d'une vie chétive parce que on n'a pas compris qu'il y a des aspects, des compartiments de sa vie, des domaines qui ont besoin d'être exposés au travail rédempteur de Dieu
en Jésus-Christ.
Et pour cela, cette série nous aide à l'identifier. Mais pour aujourd'hui, allons-y à répondre à cette. Deux questions vont nous aider. Quelles sont les sources qui nous font être touchés par la dégradation, la déchéance? Quelles sont les causes? Quelles sont les origines? Par quelle voie? Par quelle source? Par quelle origine la déchéance, la détérioration, la dégradation, la malédiction nous atteint, nous touche? Comment ça nous atteint? Voici les deux questions. La première, par quelle source, quelle voie, quelle origine, ça vient d'où? Et la deuxième question, ça procède comment? À quel moment? Nous commençons cela aujourd'hui. Et dimanche prochain, nous allons encore expliquer comment ça fonctionne, ça opère. D'abord, laissez-moi vous donner la liste des sources, des origines, des causes à travers lesquelles nous pouvons fuir, vers lesquelles, dans lesquelles, au sein desquelles nous pouvons regarder. Nous avons besoin de visiter, de revisiter pour voir, pour y fouiller. C'est venu à partir d'ici. Ça provient de ça. Les causes, les sources, les origines. Première approche questionnaire, complétée par la deuxième. Comment ça se passe? À quel moment de notre vie? Quand est-ce que c'est arrivé? C'est tout ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. D'abord, les causes. Je les énumère sans explication. Et nous reviendrons plus tard. Je les énumère simplement. Souffrez de noter. La famille biologique. La famille biologique de ton père et ta mère d'où tu es né. Et en particulier les parents. La société, comme monde immédiat, notre milieu de vie. Avec la société comme monde immédiat, notre milieu de vie, nous avons là-dedans l'école, le système éducatif, les amis qu'on y rencontre, les enseignements, les connaissances qu'on reçoit. Les connaissances qu'on reçoit, vous connaissez, il y a des cours comme philosophie, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des disciplines comme biologie pour expliquer la vie, mais parfois, qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'où vont ceux qui enseignent? Ils ont quel background et ils prennent ça sous la perspective scientifique? Le monde, la société, ça peut nous empoisonner. Les relations avec autrui et surtout les relations sentimentales. Jeunes gens, nous aimons dire, j'ai des sentiments pour toi. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Ah, tu as des sentiments pour toi, pour moi. Moi, je ne sens rien. Les relations, surtout les relations sentimentales, vous ne direz pas j'ai des sentiments pour toi. Tu ne vivras pas avec des sentiments pour quelqu'un et tu restes intact. Tu manges et tu dors normal. Parfois, des gens peuvent te regarder pour dire, est-ce que ça va? Et tu dis, oui, ça va. Mais tu sais très bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des sentiments pour. Nous-mêmes, moi-même, c'est-à-dire mon choix, mes actes, mes actions, mes décisions. Moi-même, ce que je pose comme acte, comme action, les choix que je fais de ma santé, de ma beauté, de mon temps, de mon corps, de là où je vais et là où je ne vais pas, là où je vais, ce que je fais là-bas, ça ne t'épargnera pas. Ça va t'affecter en positif ou en négatif. Jamais neutre, jamais zéro. Mon choix, moi-même, mes actions de moi-même, mes actes de moi-même, mes décisions de moi-même libres. Mais ça joue. Le monde, j'ai parlé de la société, je parle du monde comme deux choses distinctes. Le monde. Dans le monde, nous avons les systèmes d'organisation, les croyances qu'il y a là-dedans. Le monde tel qu'il s'est organisé, avec tous les systèmes, les croyances. Mais nous avons une liste des choses que j'énumère, attachées à la fois au monde, mais parfois distinctes, que je préfère énumérer séparément, mais à la suite du monde. Les rites, les traditions, les pratiques, les coutumes, comme on dit, les us et coutumes, la spiritualité du monde dans lequel nous vivons, la spiritualité ou la religiosité. Mais il y a aussi la sorcellerie, la magie. Mon besoin, mon problème peut provenir de la sorcellerie, de la magie ou de la superstition ou de l'occultisme ou du spiritisme, des pratiques que nous ne devons pas laisser de côté. Mais de toute cette liste, nous ne pouvons pas négliger aussi. Je voulais dire le vieux diable, le diable lui-même, avec sa puissance, son travail, ses activités, ses actions, son influence, ses agents qu'on appelle les démons, les esprits mauvais. Le diable, comme puissance spirituelle, avec tout son fonctionnement. Voilà les sources. Mais j'ai reçu une inspiration d'une autre source, origine des temps actuels, les médias. Ce qui m'est venu, c'est quoi? C'est une fille de l'église, il y a, je pense, ça c'est 2021, presque 5 ou 6 années, qui était envoûtée et ne pouvait plus bien dormir, envoûtée dans la chambre, pouvait entendre des voix, faire des cauchemars de manière répétitive. Et quand je l'ai écouté, comment ça a commencé? Sur Internet. Elle a trouvé quelque chose qui était en train de clignoter. Si vous voulez avoir plus de connaissances, autour des connaissances, qui vous ouvre, qui vous donne, je ne sais pas si elle a dit sixième œil ou septième œil. Et elle était curieuse de regarder. Si vous êtes intéressé, cliquez. Quelqu'un a déjà rencontré des choses comme ça? Elle a cliqué pour s'amuser par curiosité. Elle a cliqué, et elle est partie, et elle est partie, et elle est partie, et elle est partie. Jusqu'à ce que, quand elle dort la nuit, elle commence à observer des choses inhabituelles. Elle a dit, et puis elle a cessé de continuer la recherche. Parce que c'est, disait, je suis université, je le fais par curiosité scientifique. Elle a arrêté la recherche, mais ne pouvait pas arrêter la connexion spirituelle établie entre sa personne et ce monde-là. La connexion spirituelle entre ce monde et elle a eu lieu par quelle voie? Média, Internet, une autre source. Il fallait maintenant faire ce que vous appelez quoi? La délivrance. À quel moment? C'est la deuxième question, parce que je voudrais vous amener comme ça et vous donner beaucoup d'autres exemples avant que nous ne prions pour vous aider chacun, tant que possible, à identifier votre vrai et réel besoin de transformation en profondeur jusque là où nous en serons aujourd'hui, et nous continuerons la fois prochaine à avancer. Où est-ce que nous continuerons, physiquement ici ou ailleurs, je ne sais pas. Franchement, à quel moment de ma vie cela s'est passé? Quand est-ce que le besoin dont je suis conscient, les besoins dans lesquels je me trouve maintenant, cette situation, quand est-ce que ça a eu lieu? Comment ça a procédé? À quel moment? Voilà des questions qu'on peut se poser. Parfois, on se souvient clairement, parfois, on ne se souvient pas. Et lorsqu'on s'en souvient clairement, Dieu merci. Mais si on ne s'en souvient pas, ce que nous allons voir peut constituer des pistes pour un travail de visite et de revisitation. Il s'agit ici de l'histoire de la vie de toute personne. Il s'agit ici des stades ou des phases d'une personne. Chaque personne que nous sommes sur Terre, nous vivons et nous avons des phases ou des stades de la vie qui déterminent des moments de notre vie, et c'est à travers ces stades, phases et moments de la vie que se définissent, se constituent les saisons de notre vie. Des choses que nous connaissons, je vais vous les énumérer. Je vous les énumère en ordre, tout doucement. 1. La conception. Comment est-ce que tu es entré dans le ventre de cette femme qu'on a appelée ta maman? Comment ça s'est passé? C'était prévu, planifié, accidentel, voulu ou non voulu? La conception. Est-ce que quelqu'un connaît comment ça s'est passé? 2. La grossesse. Si la conception, en réalité, prend quelques secondes, à quelques minutes, exagéré à des heures, c'est l'acte sexuel. Nous parlons noir et blanc, clairement. Mais la conception dont nous parlons, c'est l'instant I. Même pas une minute. Mais la réalité qui amène à cet instant-là qu'une vie commence, c'est ça la conception. Ce qui arrive là, à l'instant I, à la seconde tierce I, S. Ça, c'est l'achèvement du processus, la conception. Ensuite, la grossesse. Nous savons qu'en temps normal, un enfant reste combien de temps là-bas dans le ventre de sa maman? Combien? En temps normal. Mais il y a des enfants qui ne veulent pas quitter, qui restent encore jusqu'à 10 mois, même 11. Je vous dis, ma femme le sait, dans notre église au pays, il y a une femme qui a eu la grossesse. 11 mois, je vous dis. Et un dimanche, elle entre là, le pasteur le regarde. Parce que nous avions un collège de pasteurs. Le pasteur responsable le regarde, elle entre, elle vient, et puis elle s'assoit. Elle, il prêche à la fin, il dit, « Église, il y a quelque chose qui me dérange. Maman, vient ici. » Et la maman vient. Prends le micro, dit, « Depuis combien de temps ?» Parce que moi, je te regarde depuis longtemps. Ça fait combien de temps ? Elle dit, « Pasteur, 11 mois. » « Bon, tu veux rester ?» Elle dit, « Non, je suis fatigué. » Elle dit, « Église, on va prier. » On a posé la main. Il a appelé le collège, on s'est approché. Et il a ordonné, on a dit, « Toi, petit enfant, nous te voulons dehors, en vie. Tu es resté longtemps là-dedans. Le temps qui est décidé par Dieu pour rester là, c'est déjà dépassé. Maintenant, tu dois venir. Écoute-nous, nous sommes serviteurs de Dieu qui t'a créé et qui t'a placé dedans là, par le canal de ton père et de ta mère. Tu nous écoutes, nous voulons t'accueillir vivant, wow, sain et sauf. » Ah oui. Dimanche, le culte aimé, la maman est partie. Elle a accouché.
Gloire au Seigneur.
Elle a accouché. Ah oui. D'un garçon. Et on a donné le nom du pasteur. Donc, la grossesse, c'est 9 mois. Ça peut être à travers la grossesse. La grossesse. Qu'est-ce qui se passe? Et la science approuve ce que nous disons maintenant avec beaucoup de recherches. Ce qui se passe pendant la grossesse. Laissez-moi aller vite sur l'énumération, parce que vous voyez, je regarde le temps, nous avons un temps limite ici. C'est la première fois, mais c'est bon. Nous allons courir. Après la grossesse, l'enfance. L'enfance, surtout la petite enfance, de 0 à 3 ans. Qui a des souvenirs de son enfance, de sa petite enfance, de la naissance, 0, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Ma femme est forte. Elle a des souvenirs. Moi, je pense en avoir 2. Je sais où je fais la maternelle. Et je sais que quand je finis la maternelle, je vais commencer les primaires. On m'a dit non, il n'a pas encore l'âge de commencer les primaires. Même s'il est intelligent, il doit rester encore. Je fais encore la maternelle, je pense une troisième ou une année de plus. C'est ce dont je me souviens. Et puis je me souviens des petits déjeuners qu'on prenait. On me donnait le beignet et des cacahuètes dans un sachet. Comme ça, à l'école, quand c'est la pause, j'ouvre, je mange et je bois de l'eau. Ça, je m'en souviens. Petite enfance. Pensez-y. Puis l'adolescence. À quel moment? L'adolescence. Avec l'adolescence, nous avons la puberté. Nous avons la pré-ado. Nous avons la jeunesse là-dedans. Et puis vient l'âge adulte ou la maturité. L'âge adulte ou la maturité. Et enfin, la vieillesse. Le dimanche prochain, nous prendrons ces éléments et nous vous fournirons les caractéristiques et les faits marquants de chaque origine ou source et de chaque moment, phase ou stade. Et puis, nous glisserons sur comment est-ce que la déchéance, la dégradation, les atteintes viennent sur nous à travers tout ce que nous avons dit. Pourquoi nous avons cité toutes ces choses-là? Notez bien, s'il vous plaît. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Nous avons cité la famille, les médias, le diable, les croyances, les rites, la société, le monde. Et puis nous citons la conception, la grossesse, la naissance, l'enfance, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces sources, c'est à travers ces phases et moments que Dieu intervient dans la vie d'un individu, dans la vie d'une personne, pour le toucher, pour lui faire du bien, pour le bénir. Dieu intervient comme cela. Vous avez suivi notre sœur Gisèle parler. Elle a dit à l'âge de 15 ans. Vous voyez, elle se souvient de la période de sa vie et de l'âge. Dieu nous fait vivre dans le temps et dans l'espace. Et il intervient dans notre vie, dans le temps et dans l'espace. Et nous avons besoin de cadrer, d'encadrer notre mouvance, notre vie, la consommation de notre vécu, de notre destinée par rapport au temps et l'espace. Nous avons ici des repères qui nous permettent de faire cet exercice-là. S'il vous plaît, n'oubliez pas, Dieu intervient dans la vie d'une personne à travers tout ce que nous venons de dire. C'est pourquoi les enfants, les adultes, qui que nous soyons là où nous sommes, nous devons faire attention pour ne pas dire je suis encore trop petit. C'est pas le temps. Ah oui, moi je me souviens, je disais je dois d'abord vivre, je dois étudier, terminer l'université, vivre. Parce que quand j'avais autour de 9, 10, 11, je voyais un vieux, un grand garçon dans notre rue qui sortait et qui avait terminé l'université. Il s'habillait très bien, je vois son image, et il sortait. Et puis, chaque fois qu'il sortait, il y avait une femme, une jeune femme mariée. Lui, il était célibataire. Il y avait une jeune femme mariée qui sortait aussi. Et nous, comme jeunes gens, on les a filés pour trouver qu'ils étaient ensemble. Ce vieux-là sortait avec la femme mariée. Il faisait la vie. Et moi, à cet âge-là, j'ai dit, waouh, je t'étudie, je termine l'université, je travaille et je vis. Comme ce vieux-là. Et le Seigneur est venu pendant que je n'avais pas encore le bac. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vécu. C'était l'un des problèmes. J'ai dit, oh, non. C'est à genoux, en pleurant, que je me suis avancé pour donner ma vie à Jésus-Christ. Parce que je ne voulais pas. Je revoyais ma décision et je savais ce que ça signifiait. Je n'ai pas encore terminé. Je n'ai même pas le bac. Je n'ai pas fait la vie. Je n'ai pas eu l'université. C'est quoi? Attention. Dieu merci, à ce moment-là, je me suis donné et la suite, vous me voyez devant vous.
Amen.
Je vis maintenant. Je fais la vraie vie. Amen. Et donc, je disais que tout cela, c'est les saisons, les moments, les stades à travers lesquels Dieu agit pour te toucher, pour te booster dans ta destinée, pour te bénir, pour te faire du bien. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez très très bien. Parce que ça ne touche pas la question de mon vrai et réel besoin. Écoutez-moi très bien. C'est aussi à travers tout ce que nous venons de dire que le diable agit. C'est à travers le moment conception, ou grossesse, ou naissance, ou tel âge. Ouah oui, c'est à travers des blagues lorsque je dis à une fille, j'ai des sentiments pour toi. Elle me répond, moi aussi j'ai des sentiments pour toi. Mais c'est à travers des moments comme ça que toutes deux destinées vont s'orienter. Pour le pire ou pour le meilleur. Si Dieu intervient à travers tout ce que nous venons de dire, le diable aussi intervient à travers de tels moments, à travers de telles choses. derrière ces sources-là. C'est pourquoi je voudrais, si Dieu intervient pour nous bénir, nous faire du bien, le diable, lui, c'est pour nous détruire, pour nous nuire, pour nous désorienter. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que de la dégradation, de la déchéance et du péché dû par un seul individu, Adam et Ève, le monde, l'humanité, le genre humain jusqu'à moi, nous nous retrouvons affectés, atteints, dégradés, déchus. De même, en Jésus-Christ, l'obéissance de Jésus comme individu touche tous les genres humains jusqu'à moi. Mais laissez-moi ici, alors que nous allons à la fin, vous donner, je préfère vous donner quelques exemples encore qui vont nous permettre de penser, de prier. J'ai lu l'histoire d'un jeune homme. Chaque fois qu'il faisait un travail écrit, ça fait longtemps que j'ai lu cela. D'ailleurs, dans nos habitudes en tant qu'enseignant, lorsqu'on fait faire un travail, la première chose qu'un enseignant demande aux étudiants, vous savez c'est quoi? Vous prenez une feuille de papier et vous devez répondre aux questions. Quelle est la première chose à faire? C'est écrire le nom. Alors il y a un jeune homme qui n'écrivait pas le nom. Et l'enseignant regarde, chaque fois qu'il reçoit les copies, il n'y a pas le nom de quelqu'un. Il regarde, ce sont les mêmes écrits. Il est obligé, il met la côte, mais après il doit chercher. Et puis, le jeune homme se présente. Et puis une autre interrogation ou examen, il fait la même chose. Un jour, l'enseignant, exacerbé, il appelle à côté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça fait plusieurs fois que tu ne veux pas écrire ton nom. Et l'enfant a commencé à pleurer. C'est pourquoi? Le nom de famille. Il dit, mon nom là, quand on prononce, parce que quand l'enseignant prend les feuilles, il lit X. Et la personne vient prendre X. Alors lui, à des âges avancés, en public, dès qu'on prononce son nom, les gens commencent à se moquer de ce que le nom signifie. Alors il ne voulait plus essuyer cette honte-là, de se voir être moqué par les gens à cause de son nom de famille. Je n'écris pas. Il y a quelques années, un Américain de 32 ans, une histoire vraie, passé en 2007, avait pris 3 filles lycéennes en otage. Il les a prises en otage, il s'en est servi, s'est abusé d'elles, et puis les a tuées. Et lorsqu'interrogé, il a dit, je me suis vengé, 32 ans, je me suis vengé de ce que moi-même j'avais subi, à 12 ans. 32 moins 12, ça fait combien? Voilà. À 12 ans, il a subi une maltraitance, un abus, un rejet. Comment s'en sortir n'a pas pu? Il a trouvé l'occasion après 20 ans. Ah oui, récemment on m'a raconté l'histoire, en fait c'est à ma femme qu'on a raconté, j'ai suivi ça et puis j'étais inspiré, d'une sœur en Christ, aux États-Unis, très engagée spirituelle, et qui est partie visiter une Africaine. Elle est allée visiter des voisins. Ce n'est pas des voisins de l'église ou du quartier, mais des voisins. Alors quand elle entre dans la maison, ses voisins, la voisine, ils élèvent les serpents. Elle voit le serpent. Directement, elle commence à exorciser à l'encore. Elle prend autorité sur les serpents. Et la voisine lui dit, non, nous élevons les serpents. Et ils sont gentils, il n'y a pas de problème. La même personne sort encore, va chez d'autres voisins, en visite. Dès qu'elle entre, un gros chat en très bonne santé surgit pour l'accueillir. Vous savez, ces animaux domestiques là, tout ça parfois, ils sont gentils, c'est eux qui viennent en premier. Dès qu'ils entendent un mouvement, le chat vient là pour l'accueillir. Au nom de Jésus, elle a commencé en langue à chasser les chats. Au point que le chat a fui et le chat était traumatisé. Ce qui est intéressant et rigolo, c'est quoi? Maintenant là, chaque fois qu'elle rend visite à cette famille-là, dès que le chat la voit, le chat s'enfuit. Des fois, le chat est traumatisé. Le problème en réalité, ce n'est pas les chats. C'est lui-même. Ça, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Ça vient d'où? Ça vient aussi du parcours personnel dans sa vie par rapport à la relation avec telle ou telle chose, tel ou tel animal. À ne pas raconter ici. Vous savez, il y a des choses graves. Il y a quelques années dans notre église, à la fin du culte des messages, j'ai reçu un homme qui était en visite, un professeur d'université, métis, professeur d'université aux Amériques, en Argentine, âgé de plus de 50 ans. Il a pleuré et il m'a parlé de sa vie, incapable de s'assumer, incapable de se marier, incapable de tenir une relation qui aboutisse au mariage. Et je l'ai reçu à la maison, je l'ai écouté. Et l'histoire m'a fait pleurer. Vous ne croirez pas. Ce garçon, à partir de l'âge de 9 ans, était utilisé comme objet sexuel de sa marâtre, la femme de son papa. Le papa part en mission, voyage, et l'enfant reste comme tous les autres enfants. Et c'était l'enfant le plus âgé, c'est l'enfant que le papa a eu avec son autre femme de laquelle ils étaient séparés. Et quand il reste seul, cette femme-là prenait cet enfant et l'utilisait pour des choses abominables, pour la lécher. Et pas une fois, régulièrement. Et chaque fois le papa venait, il disait, c'était bon le séjour avec ta maman, je dois encore voyager. Et c'était le calvaire pour cet enfant. 9 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à ce qu'il a décidé de quitter. Il ne pouvait même pas dire, parce que le papa était un homme important et la femme, il ne savait pas comment aborder même ce sujet avec son père. À qui parler? Et il m'a dit, c'est à vous, parce que je vous ai écouté prêcher et je vis avec ça. J'ai pleuré pendant tout le temps. Je vous dis ceci, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Depuis 9 ans jusqu'à plus de 50 ans. Faites la différence. Bien-aimé, la bonne nouvelle de tout ceci, c'est que Jésus-Christ, c'est la solution. Jésus-Christ, c'est la réponse suffisante et satisfaisante à mon besoin personnel réel. Quel que soit ce besoin-là, quel que soit le niveau plus bas de déchéance, de dégradation, de détérioration, quel que soit à quel moment c'est arrivé dans ta vie, quel que soit par quelle origine, par quelle source, par quelle voie, ah, Jésus-Christ, c'est ta bonne nouvelle. C'est la solution. Il te rachète totalement. il a payé le prix de ta rédemption. C'est ce que nous trouvons en 1 Pierre 1, 17 à 23, Tite 2, 11 à 14, et Deutéronome 30, 19 à 20, A, si nous faisons les choix pour Jésus. Et nous voulons prier pour terminer ce moment en lisant ces passages. Le passage que nous voulons lire, c'est pour nous permettre de nous présenter devant Dieu. Peut-être que pendant ce message, tu réfléchis et tu penses et le Saint-Esprit a mis en exergue, en lumière, en conscience, un certain nombre de choses. Le fait de te sentir comme cela, déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que ici, ces choses, tu les entends pour ta guérison, pour ton salut, pour ta transformation, pour ta restauration. Amen. Et tu as besoin déjà de te réjouir que le Seigneur amène ces choses à la lumière. Nous ne pouvons pas donner des exemples qui correspondent aux besoins réels de chaque individu. Mais le Saint-Esprit fait retrouver chacun en amenant ta vie à la conscience d'une réalité qui est ton vrai besoin. Sinon, nous nous exposons au Seigneur. Il les révélera. Et les dimanches qui suivront, nous reviendrons sur ça avec beaucoup d'autres détails, sur comment ça se passe jusqu'à ce que ça affecte notre comportement, notre relation vis-à-vis de Dieu et l'ensemble, dans la perspective de Dieu et moi. C'est pourquoi nous voulons faire des déclarations et lire ces passages à partir du texte. Nous avons encore la technique qui va nous aider. Et je ne sais pas si on peut se lever ou bien si on se lève, on va bien voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut se lever. Nous allons lire ces passages comme des proclamations. Et nous allons passer à clôturer les services avec les offrandes. Et ce que je ressens, parce que nous devons libérer, je pense le plus tard c'est 13h qu'on doit libérer, 12h30 on doit sortir. Et moi je préfère pendant ce temps, je vais me mettre ici, j'inviterai aussi mon épouse. S'il y a des gens qui ont besoin de prières en attendant, vous venez, on prie pour vous et puis vous partez. Et nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Franchement, je ne sais pas si le dimanche prochain, pour moi, j'aimerais être ici pour prier avec vous comme ça physiquement. Mais si c'est pas bon, on va être là où c'est mieux. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là-bas. Nous en sommes à des passages. Vous allez voir les passages projetés, vous notez les références. Sinon, c'est Proverbe 18, Proverbe 12, 14, 13, 2, 18, 20, 21, Matthieu 11, 25 à 20, 28, les psaumes 27, et puis le Proverbe 17, verset 22a. Donc ces passages que je viens de survoler en vous les annonçant seront projetés l'un après l'autre par la technique qui les fait déjà. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je veux que vous ouvriez la bouche, que vous déclariez ces passages. Vous les lisez en les déclarant, en les proclamant pour vous. Ça évoque une sorte de voix un peu plus forte. Nous allons tout doucement, je ne vais pas les commenter, nous les lisons comme le temps est parti. Allons-y ensemble. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc il y a la bouche, ta bouche qui déclare des choses bonnes pour toi et tes mains qui font. Maintenant, c'est le temps de déclarer. Lisons le passage suivant. Ensemble. Par le fruit de ta bouche, on jouit du bien. Mais ce que désire le perfide, c'est la violence. Par le fruit de la bouche. Ce qui sort de ta bouche, on jouit du bien. Que le bien sorte de ta bouche maintenant. Alors que tu as peut-être identifier tel ou tel besoin. Nous continuons la lecture. C'est du fruit de sa bouche que
que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Waouh. Que ta bouche te fasse rassasier. Si tu veux te rassasier de l'amertume, libère l'amertume de ta bouche. Mais si tu veux du bien, la joie, c'est le moment de proclamation. Et nous continuons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bonne nouvelle. La mort et la vie. Et nous verrons à Deutéronome 30 que j'ai cité. Dieu va dire, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ici on dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ma langue, la langue. Merci Seigneur. Nous continuons avec le passage suivant, Matthieu 11, versets 25 à 28, où Jésus nous invite pour nous introduire au Père, avec le poids de notre besoin, de notre histoire, afin qu'en lui Jésus, tu trouves le repos. Quelqu'un va trouver le repos maintenant. Amen. Pour son âme et sa vie. Lisons ensemble. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et l'enfant là, c'est qui? Ah, c'est moi. Quelqu'un peut dire, je te loue, Père, aussi. Nous continuons. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu t'a révélées aujourd'hui, maintenant, pour lesquelles tu peux le louer? Mais ce n'est pas fini. Nous continuons la lecture. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus a décidé de révéler son Père à qui? Waouh. Sois béni déjà. Comme il te révèle son Père, voilà l'appel qu'il te lance. Voilà l'appel qu'il nous lance à toi et moi. Venez à moi. Et je dirais mieux, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci de donner le repos à un frère, à une maman fatiguée, à un homme, à un papa, à un jeune homme. Et nous allons nous bercer. Je ne sais pas si c'est le dernier passage. Nous terminons avec ce psaume. Nous lisons versets 1, 3 jusqu'à 9, 14. Allons-y ensemble. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'accueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Nous voulons nous arrêter là. Espère en l'Éternel et que ton cœur s'affermisse en lui.
Nous pouvons lever nos mains et dire merci au Seigneur pour sa parole de tout à l'heure. Dites merci au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à cette occasion? Qu'est-ce que vous avez reçu? Dites-lui merci. Dites-lui merci. Je ne sais pas si ça a réveillé des choses douloureuses, pénibles, tristes. La chirurgie de Dieu prend place en toi. Dites-lui merci. C'est la bonne nouvelle. De ta bouche, de ta langue, proclame et rassasie ta santé. Proclame des choses sur ta vie qui t'apportent du bien à cause de la parole et de la bonne nouvelle. Alors que nous quitterons ces lieux, tu vas continuer à méditer sur cette parole et tu diras, Saint-Esprit, fais-moi visiter l'histoire de ma vie, des différents moments, depuis la conception à la grossesse, ma naissance jusqu'à ces jours. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque part? Oh Seigneur, merci Saint-Esprit, tu me connais avant que je n'existe. Merci Père pour ma soeur. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour ta parole restauratrice. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle de ta parole. Merci pour l'esprit de ta fille et de ton fils que tu libères déjà. Et pour les cœurs que tu libères et dont tu remplis de l'espérance et de la confiance en toi. Toi, le Dieu qui en Jésus-Christ, en dépit de sa situation, de son état, de son besoin, tu as payé sa rédemption. Tu as payé le prix pour un travail de restauration parfaite et complète. Merci notre Dieu pour ce moment. Que tu bénisses ta parole comme sémence spirituelle, divine, éternelle, toute puissante, dans le cœur de ton fils, dans le cœur de ta fille. Parce que certainement, cette parole est messagère et missionnaire. Elle portera des fruits en abondance et en bénédiction et en bonheur, en guérison pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton fils, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir et nous arrivons à la fin de notre culte. Notre frère Oscar vient nous aider. Merci, pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment. Je ne sais pas si vous vous êtes senti comme moi, mais je sens que ce n'est pas la même chose. Être en ligne et se voir comme ça, recevoir ce ministère, ce n'est pas la même chose. Et je prie que Dieu nous fasse grâce, peut-être de faire un peu plus d'efforts, c'est vrai, mais de recevoir ce ministère-là, ce temps ensemble, le bien que Dieu nous fait ensemble. Tout à l'heure, les amis sont venus nous indiquer déjà que nous sommes au terme de notre temps. Donc, ce que je voudrais faire, c'est prier pour les offrandes. Nous allons offrir au Seigneur et puis nous allons libérer la salle. Les enfants se trouvent dans la salle qui est à l'entrée du cinéma. Donc, vous pouvez retrouver les enfants. Voilà. Voilà, on prend les enfants et puis directement on peut descendre. Voilà, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier et clôturer. Seigneur, reçois. Reçois ce que nous t'avons apporté pour te dire merci pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais dans nos vies. Les choses qui dépassent l'entendement. Merci pour les témoignages qui sortiront de ce moment. Seigneur, merci aussi de bénir les offrandes. Et de permettre par ta grâce, Seigneur, que nous puissions à nouveau nous retrouver ensemble en présentiel. Pour que dans ta présence, au travers des ministres que tu t'es choisi, Seigneur, ton œuvre se fasse dans nos vies pour ta gloire. Bénis cette semaine, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Si vous avez prévu de donner vos offrandes en ligne, vous pouvez utiliser le code qui est dans le groupe CCF Chine. Sinon, il y a le panier qui circule pour les offrandes. Bon dimanche. En tout cas, nous sommes sommés de sortir. En fait, on ne s'attroupe pas, on va seulement jusque dehors et puis on s'en va. N'oubliez pas de vous prononcer si vous voulez que dimanche prochain on se retrouve. Envoyez un texto, soit au PB, soit à la Mère des Nations, soit à Tonton Eric, soit à Maman Joséphine, l'ambassadrice, soit au frère Oscar. Aujourd'hui même, s'il vous plaît, parce que si on doit être là, on doit tout conclure demain. Quelqu'un a besoin de prière, nous sommes là. Les 5 minutes que les gens sont en train de partir, parce qu'on a annoncé cela, on est là.
Au revoir, maman. Vérifie, ça c'est la technique.
Oui.
Ouais.